Donne-moi ta main et prends la mienne. La cloche a sonné, ça signifie là où est à nous que la joie vienne. Mais oui, l'école est finie.
Les petits et les grands lisent en même temps. L'émission qui parle littérature jeunesse un mercredi sur deux sur Jet FM 91.2.
Bonjour Vincent Doumézel, vous êtes l'auteur avec Lila Tilly de l'album Comment les algues peuvent sauver le monde aux éditions La Cabane Bleue. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus?
Eh bien sûr, je suis conseiller donc en océan aux Nations Unies, en effet, auteur du livre La Révolution des algues en 2022, un livre qui a connu un beau succès et qui porte, enfin qui raconte un peu ce que nous faisons au sein de cette filière des algues. C'est-à-dire que j'ai fondé en 2021 la Coalition mondiale des acteurs des algues, qui regroupe aujourd'hui plus de 2000 membres. À travers le monde, et donc avec au sein de l'ONU de porter un peu ce sujet des algues, qui est plein d'espoir et porte beaucoup de belles solutions, lui, puisque les algues sont perçues comme une solution à nourrir la planète, nourrir les hommes notamment, mais aussi les animaux, à porter un modèle agricole un peu plus durable en remplaçant les fertilisants et et en créant des biostimulants pour renforcer les plantes. En remplaçant les plastiques aussi, qui sont des matières évidemment très mauvaises pour l'environnement, mais aussi les cotons, qui sont pas beaucoup mieux en termes d'empreinte écologique, et en apportant des innovations de rupture pour les médicaments aussi, pour les nouveaux traitements médicaux, et surtout en réparant la planète en termes de biodiversité, puisque une forêt d'algues, ça contient beaucoup de biodiversité, ça va redynamiser les écosystèmes. Et puis évidemment, les forêts d'algues absorbent beaucoup de carbone. Et donc contribue à limiter le changement climatique et aussi apporte une source de revenus aux populations côtières où les ressources de la pêche diminuent et les algues apportent des nouveaux revenus et des nouveaux emplois de façon très inclusive en intégrant beaucoup les nouvelles les populations les plus marginales et notamment les femmes dans ces pays-là. Donc voilà, donc c'est une belle solution, c'est un beau projet. Et il me tenait beaucoup, beaucoup à cœur de le partager avec les enfants et la jeunesse, puisque si vous voulez changer le monde de demain, eh ben, il n'y a pas grand-chose de mieux à faire que d'en parler à la prochaine génération, je crois. Donc voilà, une fois le succès du livre, la première idée que j'ai eue, ça a été d'en parler aux enfants, et j'intervenais souvent dans les écoles sur ce livre, et donc j'ai eu envie d'en parler aux enfants, et j'ai connu La Cabane Bleue. Avec toute cette magnifique philosophie qu'elles ont, cette éthique, qui porte cette maison d'édition tellement particulière, avec qui fait beaucoup de sens. Et c'est vrai que c'est important parce que si c'était pour imprimer un livre pour les enfants sur du plastique sur un livre imprimé en Chine, le message il n'était pas très cohérent, on va dire. Donc là, voilà, on a une magnifique éthique professionnelle de la part de deux jeunes femmes qui sont extrêmement engagées. Donc j'ai trouvé ça très beau comme histoire pour porter cette histoire de la révolution des algues, donc on a un peu changé le titre, mais ça a été que la première adaptation, puisque aujourd'hui on a une adaptation. Alors il y a eu plein de langues qui ont été traduites en plein de langues le livre, mais il y a une adaptation qui arrive en BD bientôt, en BD grand format avec Futuropolis, et puis un film prochainement. Donc voilà, mais la priorité pour moi, c'était vraiment de m'adresser aux enfants avant tout le reste.
D'accord, génial. Il faudra nous en dire un peu plus sur la BD, sur le film. On pourra revenir dessus après. Racontez-nous un peu votre parcours. Comment vous êtes arrivé à étudier les algues? Comment vous êtes arrivé jusqu'à l'ONU pour promouvoir la culture de l'algue et des algues pour sauver un peu le monde? Comment vous êtes arrivé jusque-là?
Alors, j'ai commencé ma carrière en Afrique, en fait, à 20 ans, ce qui était très marquant, parce que découvrir le vrai visage de la faim dans le monde à 20 ans, c'est toujours quelque chose d'un peu traumatisant. Et du coup, j'ai décidé de passer le reste de ma carrière à peu près à travailler dans l'agroalimentaire pour rendre la filière plus éthique, plus performante et permettre de nourrir plus de monde. Et après 20 ans d'efforts, j'en suis arrivé à la conclusion qu'il n'y avait aucune solution sur Terre. Puisque on a 800 millions de personnes qui meurent de faim à peu près, même si on a la chance de l'oublier dans notre pays, mais c'est une réalité. On a 300 000 personnes à nourrir tous les jours en plus sur Terre. On a des besoins colossaux, hein. Dans les 50 années à venir, il faudra nourrir, il faudra produire autant de nourriture qu'on l'a fait depuis 10 000 ans, selon les calculs d'université hollandaise, si on veut nourrir la planète. Et puis, surtout, les systèmes alimentaires qu'on a aujourd'hui sont devenus les plus gros contributeurs aux gaz à effet de serre, à la biodiversité, à la perte de biodiversité, à la sécheresse des sols et voire aux injustices sociales. Donc on a vraiment une filière alimentaire qui non seulement est faiblement performante, je dirais aujourd'hui, même si elle a fait des gros progrès évidemment depuis 50 ans, mais aujourd'hui elle reste à améliorer en termes d'efficacité, en termes de nourrir le monde, et surtout elle a un impact écologique et climatique absolument dramatique. Et en même temps, on ne peut pas se dire qu'on va faire attention à la planète et laisser mourir 3 milliards de personnes. Donc il fallait trouver une autre solution, et en regardant la planète, en fait, je me suis rendu compte qu'elle était bleue. Et le chiffre qui a été un impact pour moi, qui a été un révélateur, c'est de me dire que la planète est couverte à 71% par des océans qui contribuent à moins de 2% de notre alimentation. Donc on a concentré 98% de notre production alimentaire sur moins d'un tiers de la planète. Et c'est même encore pire que ça, parce que si on regarde l'espace habitable sur Terre, les océans qui font 3 700 mètres de profondeur et où la vie est sur l'ensemble de cette couche, eh ben, alors que sur Terre, c'est sur une dizaine de mètres finalement, eh ben, c'est 96% de l'espace habitable de la planète qui sont dans l'océan. Donc on concentrait 98% de la production alimentaire sur 4% de notre espace habitable, et c'est absolument délirant. Et en fait, donc du coup, je me suis lancé dans une espèce, avec une, j'ai rejoint une fondation anglaise pour lancer un travail sur les algues, pour développer la culture d'algues, puisqu'en allant au Japon, j'ai eu la chance de beaucoup voyager pour mes dans mon expérience passée, et pour mon travail. Et donc j'ai eu la chance de découvrir qu'au Japon, on cultivait une ressource qui n'avait pas besoin de terre, qui n'avait pas besoin de nourriture et qui n'avait même pas besoin d'être arrosée, qui était extrêmement nutritive, extrêmement bonne pour la santé, extrêmement bonne pour la planète, que ça faisait des Japonais les ceux qui étaient le plus en forme et qui avaient le moins de maladies cardiovasculaires, de diabète, d'obésité et de cancer. Et je me suis dit qu'il fallait absolument transcrire ça au reste du monde. Et le raisonnement était de me dire, mais finalement, voilà, on est passé de l'homme préhistorique à la civilisation il y a 12 000 ans en devenant cultivateur, mais ça a été uniquement sur la Terre. Et il est grand temps de devenir civilisé avec les océans aussi, et de sortir de ce mode de prédation et de déchetterie qu'on a avec les océans, et de rentrer dans un mode de civilisation.
Très bien. Effectivement, on apprend beaucoup de choses dans ce livre, hein. C'est vrai que c'est très instructif, ça permet de vraiment d'avoir envie de changer les choses à partir de connaissances. Pour comment dire, résumer un peu le livre, c'est comment les algues peuvent sauver le monde. C'est un album qui explique comment faire du tartare d'algues, très important. Comment guérir plein de maux de l'humanité, par exemple la faim dans le monde en se tournant vers la mer. On cherche des alternatives au plastique pour moins polluer. Moi, j'ai appris que les saumons de Norvège mangent du soja importé au lieu de manger des algues, ce qui n'est pas tout à fait naturel, que la méconnaissance des algues en Europe est due à la conquête romaine, et que les Japonais ont des algues dans leur placard. Et j'ai appris qu'il y a 50 millions d'années, une petite algue révolutionnaire avait chuté la température sur Terre pour y permettre la vie. Donc on apprend beaucoup de choses. Est-ce que les algues vont vraiment nous sauver? Est-ce que vraiment on peut y arriver? Est-ce que l'ONU est là pour ça? Ou est-ce qu'on rêve? Ou est-ce qu'on peut y arriver?
Alors, il faut rêver, sinon les choses n'arrivent pas, hein. Donc, il faut surtout pas perdre l'espoir. Et c'est aussi pour ça, moi j'ai 3 enfants, hein, et depuis 20 ans, je me désole de voir à quel point ils sont nourris, et sans doute par moi-même aussi, par des peurs et des drames, alors que, il faut les nourrir avec des espoirs et des solutions. Les algues en sont une, évidemment. C'est pas non plus la formule magique qui va tout résoudre. Il y a un énorme travail à faire. Il y a beaucoup de temps, il y a une génération à former pour le faire, donc ça va pas arriver du jour au lendemain. C'est pas une formule magique, mais oui, dans l'histoire, vous avez mentionné quelques points, mais on pourra apprendre aussi que les algues, elles ont permis de gagner la Première Guerre mondiale, elles ont permis aux Vikings de voyager très loin, elles ont permis surtout aux hommes de devenir ce qu'ils sont avec un gros cerveau, puisque c'est grâce aux algues, si on a un cerveau aussi gros, elles ont permis à l'humanité de devenir ce qu'elle est, elles ont permis à la civilisation de s'installer en Amérique, et surtout elles ont dessiné le monde depuis 4 milliards d'années, enfin sur les il faut réaliser que sur les 4 milliards d'années de vie sur la planète, 3,5 milliards se déroulent uniquement dans l'océan. Donc notre vie terrestre, c'est un peu un épiphénomène extrêmement récent. Rien ne dit qu'elle va durer d'ailleurs, hein, parce que on pourrait imaginer que les civilisations vont repartir dans l'océan, un peu comme l'ont fait les baleines et les dauphins d'ailleurs. Et donc voilà, donc ce que je veux dire, c'est que le fondement de la vie sur Terre, c'est dans l'océan. Et les végétaux de l'océan, ce sont les algues, les micro-algues et les algues d'ailleurs. Il faut repartir de la base si on veut reconstruire la planète. On construit pas une maison, enfin on reconstruit pas ou on répare pas une maison en commençant par le toit. On commence par le fondement. Et le fondement de la vie sur Terre, ce sont les algues en fait, dans leur grande définition. Et c'est de là qu'il faut repartir sans doute pour repenser un futur un peu plus durable et un peu plus éthique et un peu plus écologique. Donc c'est ça l'idée, c'est de se dire revenons aux fondamentaux. 90% de l'histoire de la vie sur notre planète, elle est dans l'océan. Essayons de comprendre ce qui s'y passe et de comprendre comment elle pourrait dessiner l'avenir. Et il y a un tartare d'algues dans le livre aussi, quelque chose à mentionner, parce que je pense qu'on est tous acteurs de ce changement. C'est quelque chose qui est... Et la première chose à faire, c'est d'en manger. Si on veut que le changement arrive, si on veut que les algues se développent, il faut aider ce marché. On est tous des activistes environnementaux tous les jours. En décidant ce qu'on allait manger, ce qu'on va manger, et en faisant l'effort d'aller dans un magasin bio ou dans un magasin spécialisé, un magasin asiatique, je ne sais pas, qui vend des algues, et en comprenant comment les cuisiner. Donc le tartare, évidemment, c'est très simple à faire et ça marche assez bien. Il y a des milliers de recettes, évidemment. Il y a 12 000 types d'algues, toutes comestibles. Il faut apprendre à les connaître, il faut apprendre à les cuisiner. C'est comme tout, hein. Un chou de Bruxelles, ça n'a pas le même goût qu'une fraise. Bah, 12 000 types d'algues, c'est pareil, c'est très très différent. Donc ça se cuisine pas pareil non plus. Voilà, il faut vraiment apprendre à les connaître, faire un petit effort, parce que notre civilisation, elle a en effet perdu le goût des algues. Mais il faut les aider, et le meilleur moyen de les aider, c'est d'en parler autour de soi, évidemment, de cette solution, mais aussi de les manger et d'en faire une partie de notre alimentaire, même si c'est de manière assez anecdotique. Pas forcément, on va pas manger des salades d'algues tous les jours, évidemment, mais même saupoudrer quelques algues sur nos menus, etc. Ça donne un petit goût en plus, et c'est très chouette, et c'est un bien pour votre corps et pour votre planète. Notre planète.
Ça marche, on y pense. Non, mais c'est vraiment un livre passionnant et donc on apprend beaucoup de choses. Et pourquoi pas changer le monde avec un livre? C'est vrai que voilà. Pourquoi pas. Je vais en lire un petit extrait si vous êtes d'accord.
Ouais.
Alors, je suis sur le rôle des algues pour le climat et je vais lire éponger le carbone. Alors, comme toutes les plantes, les algues pratiquent la photosynthèse. Elles absorbent du CO2 et utilisent la lumière du soleil pour le transformer en matière. C'est ainsi qu'elles grandissent, produisant par la même occasion de l'oxygène. En absorbant le CO2, elle l'empêche de retourner dans l'atmosphère, ce qui limite le réchauffement climatique. Et comme certaines algues poussent très vite, on estime qu'elles sont plus efficaces que les forêts terrestres. Les algues sauvages à travers le monde absorbent déjà autant de carbone que toute la forêt amazonienne. Donc là, on a un petit exemple. Je ne vais pas citer tous les exemples. On a vraiment des exemples très pratiques dans ce livre de comment les algues peuvent effectivement avoir un rôle majeur. Et c'est des exemples très pratiques et très, très concrets. Et donc, bah, à la fin du livre, on y croit. C'est pas une
Et
blague,
ben,
on y croit vraiment. Qu'est-ce que j'ai
moi aussi
oublié?
j'y crois, sinon je l'aurais pas écrit. Après, ce sera à nous de réaliser ou pas cet objectif. Mais encore une fois, on est tous acteurs du changement, donc il faut y croire.
Ça marche. J'y vais avoir une question sur le travail d'illustration de ce livre. Donc c'est Lila Telly qui illustre ce livre. Comment vous avez travaillé ensemble? Est-ce que, alors c'est un peu sur la cuisine qu'on aime bien explorer dans cette émission. Comment vous avez travaillé ensemble? Est-ce que vous avez reçu les illustrations une fois que le livre était écrit et
Ah
vous avez
non,
reçu
on
les
s'est
illustrations ou est-ce que vous avez pu
rencontrés.
travailler
Alors,
ensemble?
j'ai connu Léa, parce que enfin, son vrai nom c'est Léa, en fait, il y a la télé, c'est. Mais excusez-moi, donc je l'appelle Léa, parce que je la connais bien par ailleurs maintenant. Non, non, j'ai connu Léa avant, en fait. Je l'ai connue par La Cabane Bleue. Ce qui est marrant, c'est qu'elle tenait à l'époque un restaurant de maquis à Paris. Donc c'était assez. Qu'elle s'était reconvertie un peu. J'ai été la voir, on a beaucoup discuté, on a beaucoup partagé. Je lui ai montré des photos, je lui ai montré des images. Voilà, on a été. En plus, elle est de Lannion. Forcément, elle connaît bien les algues aussi. Elle n'avait pas trop un gros travail à faire d'imagination, on va dire. Mais non, non, on s'est beaucoup vu. J'ai suivi chaque planche. Le déroulé de chaque planche, on a beaucoup discuté, on a beaucoup échangé. Après, elle a été très autonome, hein. Enfin, j'ai pas eu à la guider en soi. On m'avait proposé plusieurs illustrateurs et c'est elle que j'avais choisie. Et je l'ai pas regretté parce que je pense qu'elle a fait des illustrations d'une très très grande qualité. D'ailleurs, elle se lance dans l'illustration aujourd'hui. Et c'était, on était ensemble il y a pas longtemps là. On a été invité à un grand festival dans les Caraïbes pour ensemble pour présenter le livre lors de plusieurs sessions. C'était très chouette. Et moi, je suis très fier de. En plus, elle habite Montreuil, là où j'ai grandi. Donc il y avait un signe du destin aussi là-dessus. Donc non, on s'est pas mal vu et on a travaillé ensemble. Ouais.
D'accord, très bien. Est-ce que il a fallu travailler sur des représentations scientifiques pour illustrer ce livre? Est-ce que vous avez travaillé ensemble sur le domaine, enfin sur la partie scientifique, ou est-ce que simplement c'est l'illustration un peu jeunesse où ça a été inspiré par son travail de dessinatrice? Ça s'est passé comment?
Non, il y a eu un vrai travail de fond. Effectivement, il faut laisser, faut surtout pas, je dirais, faut laisser la bride à l'imaginaire parce qu'il faut que, voilà, sinon on fait des photos. Mais il y avait un vrai travail scientifique. Le livre a été relu par Philippe Potin, qui est le spécialiste français, si ce n'est européen, des algues le plus abouti. Donc évidemment, vérifier ça. Il y a eu, c'est ce qui m'a peut-être le plus impressionné dans le livre, en fait. Une des deux fondatrices de la Cabane Bleue est agréée, enfin, a un diplôme d'histoire, pardon. Et sur l'aspect historique, il y a eu un vrai travail en profondeur, vraiment de précision absolument incroyable, de vérifier que tel dessin correspondait. Voilà, quand on dessinait quelqu'un, est-ce que les habits existaient à l'époque? Est-ce que le caducée, là, bah non, il a été créé à telle époque et là, il peut pas être à telle époque. Et enfin, des choses vraiment. Donc, non, j'ai été impressionné, mais c'est une très bonne chose, hein. Et c'est peut-être un peu spécifique à la Cabane Bleue, j'en sais rien, peut-être que c'est moins comme ça dans les autres maisons, mais impressionné du travail de fond et du travail de vérification et voilà, de que ça colle à la réalité historique et scientifique. Il y a eu un énorme effort fait à ce niveau-là.
D'accord, génial. Donc, ok, même sur la partie historique, donc ça a été tout a été
Ah ouais,
vérifié.
le moindre détail est exact, on a été passé au peigne fin par l'éditeur.
Ça marche. Comment s'est passée l'écriture au niveau de votre travail? Est-ce que vous êtes beaucoup rendu visiter des algues et en ramasser partout? Ou est-ce que vous étiez au calme dans un bureau à Paris ou à Montreuil? Ça s'est passé comment l'écriture vraiment de ce livre tous les jours?
Bah alors, j'écris dans l'avion et dans le train, moi, beaucoup, parce que y a que là que j'ai du temps, en fait, et que je voyage beaucoup par ailleurs. Le plus possible en train, évidemment. Donc, ça a été pas mal là. Après, c'est une adaptation, donc c'est l'adaptation du livre. Donc, l'essentiel était déjà dans le livre. Le problème était plus. Et autant le livre, pour le coup, je me suis posé pour l'écrire vraiment. Là, c'était plus de synthétiser le livre, en fait, l'idée, et donc de voir ce qu'il fallait faire ressortir. Après, et là aussi, Léa était force de suggestion. Elle avait lu le livre, elle me disait, bah là, ça m'a marqué, ça, j'aime bien ça, etc. Il fallait voir aussi et lui laisser sa force de création, laisser parler de sa force de création et aussi son côté un peu neuf sur le sujet. C'est toujours bien de pas, sinon, quand on en sait trop, on a tendance à se perdre dans les détails. Donc c'était bien d'écouter aussi ce qu'elle avait envie de faire ressortir. Donc ça a été aussi un travail à deux. Mais il y a pas, je dirais pas qu'il y a eu une écriture en soi. Ça a plus été une synthèse du livre, en fait.
D'accord, très bien. Et généralement, quand vous écrivez vos livres, alors j'imagine que sur des livres scientifiques à énormément de rigueur,
Oui.
est-ce que vous travaillez comment dire, sur une structure très, très définie, ou est-ce que vous vous laissez un peu porter quand même par vos livres, ou est-ce que c'est pas du tout possible quand on rédige des documents scientifiques ou des livres qui se basent sur de la science? Ou est-ce que vous pouvez pas du tout vous laisser embarquer par l'imagination, vous êtes obligé d'être très sérieux?
Bah, l'imagination, non, c'est pas un livre imaginaire. Hein. Moi, j'aime beaucoup écrire et j'ai écrit des romans par le passé. Là, c'est bien, on peut partir comme un. Là, c'est moins le cas. Je dirais qu'il y a surtout un travail à faire pour simplifier des choses et trouver des histoires et incarner un sujet scientifique. En fait, je dirais la partie imaginaire, c'est dans la capacité à incarner quelque chose qui n'existe pas dans l'imaginaire ou qui existe avec des représentations qui sont mauvaises. Et c'est pour ça qu'il est important de parler de l'histoire de cette femme en Tanzanie, des Vikings, de parler de cette algue qui a fait chuter la température de la planète, de parler de ces hommes, de ces femmes qui ont fait le secteur des algues, cette Anglaise qui est devenue une déesse, une demi-dieu au Japon, enfin, par son travail sur les algues. voilà, d'incarner vraiment, de montrer que c'était pas quelque chose de d'abstrait, de c'était pas quelque chose de les végétaux, voilà, ça pousse en plus dans l'eau, on les voit pas, ça sent mauvais sur la plage, c'est pourri. Donc voilà, donc c'était vraiment ça l'idée d'arriver à ce travail-là en fait, à incarner un sujet qui est, et c'est encore plus vrai parce que là je sors un livre en mai sur le plancton, qui est un autre sujet, qui est un autre héros oublié des océans, et c'est encore plus vrai sur ce sujet-là parce que là c'est invisible en plus, donc pour les gens c'est vraiment compliqué de se le matérialiser, et pour le coup il est vraiment absent. Donc je dirais que l'imaginaire, c'était de réussir à trouver des histoires et de voir comment les agencer pour qu'elles fassent du sens. Et qu'on ait l'impression, en effet, de lire un roman, pour le livre en tout cas, et pas un livre scientifique de plus qui nous fasse une énumération des algues qui existent et de leurs bienfaits supposés.
Ok, très bien. À ce propos, on parle d'incarner et d'apprendre, voilà, d'apprendre des choses sans que ce soit trop compliqué et rébarbatif. À l'école, vous étiez quel genre d'élève? Est-ce que vous étiez un grand lecteur et un bon élève? Vous étiez tout le temps fourré dehors à regarder les algues et à fouiller les rochers
Bah,
et
j'ai
à
grandi à
bricoler
Montreuil,
plein
donc
plein
j'ai
de
pas
choses?
beaucoup d'algues, hein, je vais pas vous mentir.
Ah oui, c'est vrai.
Mais beaucoup, non, j'étais un bon élève, pas un gros travailleur. J'avais des facilités, donc pas mal d'imagination, et beaucoup au fond de la classe à rêver, ce qui m'empêchait pas d'avoir des bonnes notes, mais me raconter des histoires. Et c'est intéressant parce que je pense que, au-delà des algues, vous savez, j'ai appris que les Japonais ont cet ikigai, c'est-à-dire cette philosophie qui, avec les quatre cercles, hein, à quoi je suis bon, pourquoi on pourrait me payer, qu'est-ce que j'aime faire, et qu'est-ce qui a du sens pour la communauté. Et au centre de ces quatre cercles, il y a pourquoi vous êtes fait, en fait. Et finalement, après avoir beaucoup cherché, je pense que mon ikigai, enfin, ce qui me plaît vraiment beaucoup, c'est de raconter des histoires, alors auxquelles je crois et qui sont vraies, hein, c'est pas du tout. Et de porter ces histoires, et c'est quelque chose que j'essaie de faire du mieux possible en tout cas, et qui me plaît beaucoup. Et à l'école, ce que je dis toujours aux élèves quand j'y vais, c'est qu'il ne faut pas trop s'inquiéter si on a l'impression que ce qu'on apprend, ça ne sert à rien. C'est ce que tout le monde ressent, je pense, et c'est faux. Et c'est surtout ce qu'on apprend, on apprend à apprendre à l'école. Et toute notre vie, on va apprendre. Et ça, c'est très, très important, en fait. Moi, j'étais pas, encore une fois, j'ai grandi à Montreuil, j'ai même pas fait des études scientifiques. J'étais pas destiné à devenir le visage des algues à travers le monde. Du tout. Et c'est arrivé parce que bah, toute notre vie, on peut apprendre, toute notre vie, on peut progresser, comprendre des choses. Et ça, c'est un chemin qui est extrêmement intéressant.
Ça marche, c'est un message important de ne pas se décourager à l'école. J'ai interviewé il n'y a pas longtemps un jeune homme voilà, qui est en train de devenir golfeur professionnel malgré ses troubles 10 et qui s'en est sorti grâce au
Ouais.
golf. Donc c'est vrai que c'est important de, voilà, de toujours garder courage et même si on n'est pas le meilleur, ça ne veut pas dire qu'on n'apprend pas et qu'on n'a pas des choses à apporter.
Oui, non, non, ça ne veut pas dire. Et puis chacun a son rythme, chacun a son cycle d'apprentissage. Donc, faut pas. Et puis voilà, il faut essayer d'apprendre le maximum et de se dire qu'on apprend à apprendre et qu'on va apprendre à exploiter son potentiel au mieux, quel qu'il soit, en fait. Et qu'il y a
Exactement.
des places, il y a de la place pour tout le monde, surtout pour ceux qui sont un peu différents.
Exactement. Alors, on va passer à vos projets, si vous êtes d'accord, que ce soit à vos
Ouais.
projets à l'ONU, si vous avez des choses à faire avancer, ou que ce soit vos projets de livres qu'on voudrait suivre. Il y a un film, une BD, dites-nous en plus.
Alors, à l'ONU, on va avoir une très belle conférence en juin sur les océans, dont on devrait parler beaucoup. La conférence de l'ONU sur les océans, c'est le président, hein, qui l'a demandé, le président Macron, qui a demandé à ce qu'elle se tienne en France. Il y a une grande ambition derrière de vraiment créer un dialogue international sur les océans, qui est sans doute le bien le plus international et le plus partagé au monde et le plus important, puisqu'encore une fois, le cœur du réacteur de la vie sur Terre, il est dans l'océan. Donc, il faut vraiment qu'on commence avec tous ces sujets d'eau profonde, d'eau extraterritoriale, de partage des zones, etc. Il faut vraiment qu'on apprenne à travailler ensemble dessus. Donc cette conférence, elle va être importante. Je vais évidemment y être pendant une dizaine de jours. Il y a pas mal d'interventions qui sont prévues déjà. Et j'en serai. Enfin, on représentera les algues et le plancton maintenant là-bas, au sein de notre coalition. Et donc, ça va être un moment très fort de la diplomatie, qui sera suivi par l'Assemblée générale de l'ONU en septembre, où on devrait annoncer quelque chose d'important aussi pour structurer quelque chose de. Enfin, une vraie agence un peu de l'ONU sur les algues. Et puis, à la COP30 au Brésil aussi, qui devrait être un moment fort. Un partenariat aussi avec le prince William dans le cadre de son prix pour l'environnement, le Earthshot Prize. Donc voilà, des choses assez fortes d'ici la fin de l'année. Et puis à titre plus personnel, même si c'est pas un projet personnel, parce que c'est un projet où je porte le message d'un collectif, j'en ai fait un livre sur le plancton qui sort en mai, le manifeste du plancton. Plancton, c'est 90% de la biodiversité marine, donc c'est pareil, c'est le grand oublié de l'histoire encore. Peut-être encore plus fondamental que les algues, peut-être, hein, dans le sens, mais bon, invisible, donc très dur pour l'essentiel invisible, mais donc très dur à comprendre et à se figurer et à incarner. Et puis l'adaptation, en effet, en BD chez Futuropolis de la Révolution des algues, qui sortira le 4 juin, Journée internationale des algues, juste avant donc la conférence de l'ONU. Donc avec au dessin Étienne Lécroard, qui est un très bon dessinateur. Le livre est très drôle. Il y a beaucoup de Étienne a cette capacité à faire des dessins avec des petits traits d'humour, peut-être ces dessins journalistiques, on va dire un peu, avec sur chaque case des petits traits d'humour, des petites blagues pour rebondir sur un fait très sérieux et scientifique. Donc le livre, enfin j'en suis très content de cette BD. Je suis impatient qu'elle sorte. Et en plus, ça va nous permettre là aussi de toucher un public qui n'avait pas forcément envie de lire un livre de 300 pages. Et le livre jeunesse a fait office, hein, fait office très bien de vulgarisation, j'ai envie de dire un peu du livre pour des gens qui n'ont pas forcément envie de lire autant. Mais la BD, ça va être encore autre chose. On touche un autre public, donc c'est très chouette. Des jeunes beaucoup, etc. Donc non, c'est un beau projet. Et je suis très content. Et en effet, on est en train, mais là, c'est des tuyaux qui sont très très longs. On est en train de partir pour un film. Qui devrait durer, qui devrait mettre quelques années à se mettre en place, mais enfin quelques mois, peut-être 1 ou 2 ans, on va dire, mais on est impatient aussi. Moi, je suis impatient de commencer à travailler là-dessus, en tout cas.
D'accord, bah, que de beaux projets à
Ouais.
venir. On va suivre tout ça avec plaisir. Merci hein, pour toutes ces précisions, merci.
Voilà, merci à vous.
On va passer, si vous êtes d'accord, au portrait chinois de votre album.
Ouais.
Alors, il y a des questions qui sont un peu, voilà, qui sont un peu faciles, mais il y en a qui, voilà, je vais un peu adapter le portrait chinois parce que là, on parle d'algues, donc. Si votre album était une algue, ce serait laquelle? Est-ce qu'il y en a une qui représenterait ou est-ce qu'elles sont toutes aussi intéressantes que les unes que les autres et il n'y en a pas
Elles
une
sont
qui
toutes
représente votre
très
album?
différentes. Il y a 12 000 types de macroalgues. Hein, je parle même pas des millions de microalgues. Il y a 12 000 types de macroalgues. Faut s'imaginer que les algues rouges, les algues vertes, c'est les plus anciens organismes sur Terre, multicellulaires. Donc les organismes complexes les plus anciens sur Terre. Elles ont 1,5 milliard d'années. Les algues vertes ont migré sur Terre il y a 1,5 milliard d'années seulement pour donner naissance à toute la biodiversité qu'on connaît sur Terre. Ça veut dire qu'aujourd'hui une algue verte elle est plus proche d'un chêne ou d'un fraisier qu'elle ne l'est d'une algue rouge, et une algue rouge est plus différente d'une algue verte qu'un champignon ne l'est d'un éléphant au terme génétique et en termes historiques. Donc résumer les algues en une seule algue, c'est impossible. Elles sont toutes foncièrement très 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 différentes, avec des particularités extrêmement intéressantes. Il y en a qui mesurent 2 cm, il y en a qui mesurent 60 mètres. Voilà, enfin, il y en a qui poussent de 1 mm par siècle, il y en a qui poussent de 40 cm par jour. Donc, enfin, voilà, c'est un
C'est trop
écosystème tellement
compliqué.
vaste que c'est impossible.
Merci pour ces précisions. En tout cas, on continue d'apprendre des choses. Si jamais l'album était un vêtement chaud, ce serait lequel?
Alors, moi, j'aime bien les chaussettes parce qu'on fait des chaussettes en algues aujourd'hui. Sisel commercialise des chaussettes en algues, donc je dirais des chaussettes. Même si on fait de tous les vêtements en algues, mais chaussettes, chaussures, ça se fait assez bien. C'est assez facile à faire. Et en plus, c'est bien parce que c'est anti-inflammatoire, c'est antibactérien, ça sent pas mauvais du coup. Donc voilà, il y a plein de. Ça va pas gratter, ça va pas piquer, ça va pas faire de rougeur et ça ne sent pas mauvais puisque c'est antibactérien, ça ne récupère pas les bactéries. Et après, encore une fois, on fait tous les textiles. Le textile, c'est un vrai problème. Je parlais du coton. Ça représente 2% des terres cultivées, mais ça consomme 25% des pesticides dans le monde et 10% des herbicides. Donc, c'est vraiment chargé de produits chimiques. Et puis, bah, un coton, un t-shirt en coton, c'est 4000 litres d'eau. Donc, en faire avec des algues, ce serait une bien meilleure idée.
D'accord, donc les chaussettes en algues. Ok, eh ben on
Ouais,
sait quoi
voilà.
acheter à Noël, si jamais
Exactement.
on... Voilà, très bien. Si votre album était un élément sonore, un bruit, ce serait lequel?
Alors, il y a peu de bruit. Hein. Les algues, elles font pas de bruit, du coup, je sais pas. Le silence, sans doute, parce que quand on plonge dans une forêt de laminaires, de kelp, ces algues qui font 60 mètres de haut, c'est impressionnant de voir cette biodiversité incroyable. C'est une cathédrale de silence et de lumière. Avec des lumières dans tous les sens, avec des algues qui sont partout autour de vous de toutes les couleurs, et puis ces poissons de toutes les couleurs qui passent, et tout ça dans un silence magnifique. Donc, ce serait l'absence de bruit en fait, ce serait le silence parce qu'elle pousse dans un vaste silence.
D'accord, c'est une très bonne réponse. Si jamais votre album était une chanson ou une musique, ce serait laquelle? Ou une bande sonore, ce serait laquelle?
Alors, j'aime bien Giant Kelp Forest des Banana Slugs. C'est une chanson c'est en anglais, mais c'est une chanson sur les algues, sur ces forêts d'algues géantes. Voilà. Est-ce que vous allez aller vous promener en forêt avec un masque et des tubas et des palmes, etc. Ça commence un peu bizarrement et après on comprend qu'ils vont se promener dans une forêt d'algues. Et je pense que c'est important de changer la vision qu'on a des algues en fait, de comprendre que c'est une vraie forêt en fait, une vraie forêt avec des légumes de la mer dedans, avec une forêt de la mer et que tout ce qu'on a sur Terre on le retrouve dans l'océan. Donc voilà, le Giant Kelp Forest des Banana Slugs.
Ok, très bien. Et une dernière, un dernier petit portrait chinois. Si c'était une recette de cuisine, ce serait laquelle?
Alors moi, j'ai ma petite recette pour convaincre sur les algues, parce que souvent les gens sont un peu réticents et ils ne sont pas habitués, c'est un cinquième goût, c'est une cinquième saveur qu'on connaît mal. Donc moi, j'ai ma recette qui est du haricot de mer, donc ça ressemble un peu, on appelle ça aussi les spaghettis de mer, ça ressemble un peu à des pâtes, mais en vert. Ça pousse en Bretagne, évidemment, beaucoup. Et donc, spaghetti de mer avec du fromage de chèvre et des mangues. Et ça, je connais personne qui n'a pas aimé, parce qu'en fait, les trois goûts très différents, finalement, se complètent très, très bien. Et du coup, il n'y en a pas un qui prend le dessus, et du coup, c'est assez sympa. Et tout le monde aime, et ça permet ça fait une entrée en matière dans les algues assez facile. Et on trouve des haricots de mer séchés ou en boîte dans tous les magasins bio normalement. Donc il n'y a pas d'excuse pour ne pas pouvoir le faire. On n'a pas besoin d'être à Roscoff ou à Quimper pour la cuisiner.
Ok, très bien. Bah, écoutez, on va recommander ça aux éditeurs dès que
Ben,
possible. Merci beaucoup pour
merci
la recette en
beaucoup.
tout cas. Écoutez, merci beaucoup de vous être rendu disponible. Si, voilà, on a plein de choses intéressantes dans ce livre. Il faut absolument le trouver en librairie. Merci beaucoup. À bientôt sur aux conférences. On suivra l'ONU, voilà, la conférence sur les algues très bientôt. Et merci encore de vous être rendu disponible. Merci beaucoup.
Merci beaucoup à vous, au revoir.
Les petits et les grands listes en même temps, c'est fini. On se retrouve dans 15 jours sur TFM 91.2.
Nous irons